5, 4, 3, 2, unité, top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de
l'économie sociale a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Et nous aussi, on connaît la langue du cinquième élément. Mes bons amis, bienvenue dans cette auberge espagnole du mardi 26 mars 2013. On partira tout d'abord avec Adeline Jimenez de l'Agence locale de l'énergie et Philippe Capelier, architecte diplômé, qui nous présenteront la visite d'un bâtiment basse consommation qui aura lieu ce vendredi. Et puis ensuite, on aura au téléphone la déléguée générale de l'Agence du don en nature, Stéphanie Goujon, qui nous présentera la première semaine du don en nature qui se déroule du 25 au 29 mars. Et qui célèbre à sa façon les 4 ans de l'agence du don en nature. Et puis côté culture et musique, ce sera une scène spéciale, la marmite qui organise ses concerts les jeudis et puis aussi les mercredis dans le cadre des jeudis et des mercredis de la marmite. Ce mercredi sur la scène de l'Antirouille, ce seront les groupes Une Touche d'Optimisme et The Styles qui nous rejoindront dans une petite demi-heure et pour l'instant un petit peu de musique pour se mettre en bouche. les excellents Boomcello dans cette auberge espagnole. Nous sommes avec Adeline Jimenez et Philippe Capelier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, on est là pour parler bien d'une nouvelle visite de site exemplaire organisée par l'Agence locale de l'énergie. Ça aura lieu ce vendredi. Alors, Adeline Jimenez de l'Agence locale de l'énergie. Et puis, Philippe Capelier, vous êtes architecte. Et donc, vous allez nous parler de cette visite, de ce bâtiment BBC, en rappelant un petit peu le contexte, puisque que ce soit la nouvelle loi par rapport à l'isolation thermique, que ce soit les nouvelles contraintes environnementales sur la construction, etc. Les bâtiments neufs labellisés BBC, ce qui veut dire bâtiment de basse consommation, c'est dans les préoccupations de tous les urbanistes, de tous les architectes et puis des pouvoirs publics, quand c'est eux qui doivent régler la note. Donc ça s'inscrit dans un cadre général, une évolution globale des constructions et de l'urbain.
Alors tout à fait, donc on organise cette visite vendredi dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Donc il y aura les journées de l'énergie qui auront lieu vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31. Et donc on organise cette visite pour montrer que, avant tout, la transition énergétique, c'est construire des bâtiments qui vont consommer moins d'énergie, puisque l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Et donc on va vendredi visiter un bâtiment exemplaire. Et donc on a avec nous Monsieur Capelier, l'architecte, qui va peut-être nous présenter un peu plus ce bâtiment.
Alors, il s'agit d'une résidence qui répond à la loi Cellier, c'est-à-dire qui permet à des gens riches de défiscaliser un certain nombre de revenus, dans la mesure où ils sont propriétaires d'un logement qu'ils louent à des loyers encadrés. Et aujourd'hui, cette loi Cellier a évolué et les logements éligibles à cette loi doivent répondre à des contraintes énergétiques, dont la norme BBC. Elle n'est pas la seule. Ce que je tiens à préciser, c'est que le point de vue de mon point de vue, le point de vue de mon agence Blue Tango Architecture, c'est que on ne peut pas réduire l'architecture à un simple bilan thermique, c'est-à-dire que la prise en compte des dépenses énergétiques, des économies d'énergie, des conforts thermiques doit être quelque chose dans une démarche beaucoup plus générale. En l'occurrence, il s'agissait d'un promoteur privé, ça je tiens à le souligner, c'est-à-dire que ce promoteur privé a accepté de prendre les risques qui étaient dans le marché de l'immobilier, dans ce qu'il est contraint de faire un bâtiment pour autant exemplaire. Il est exemplaire à plusieurs titres. D'abord parce qu'il est cohérent, c'est-à-dire c'est une résidence qui donne sur un jardin intérieur protégé du bruit de la route. Il est cohérent parce que ce sont des petits logements qui correspondent au marché actuel, compacts, bien foutus, bien aménagés. Mais en plus, il offre à chacun de ses habitants une très grande surface. Chaque appartement, le plus petit appartement, a moins une surface de 15 mètres carrés, c'est-à-dire on offre à tous les gens une pièce extérieure, un véritable salon d'été, protégé par un système de claustrat qui fait qu'on peut s'isoler sur cette terrasse des vues extérieures. Et en plus de tout cela, il offre effectivement des performances énergétiques assez extraordinaires dans la mesure où la norme, pour faire simple, hein, le chiffre clé, c'est une consommation basée sur le chiffre de 50, okay, qui est dans le sud de la France, qui est abaissé à 40, et de cette norme, nous on est à 27. Mmh. Donc on a un bâtiment qui ne consomme absolument rien.
Et oui.
Ce qui est peut-être intéressant aussi de rajouter, c'est qu'en plus, il est chauffé par une chaufferie bois. Donc, c'est un chauffage collectif et au bois. Comme ça, il répond encore mieux aux exigences environnementales et il utilise aussi beaucoup d'énergie renouvelable. Donc, du bois et du solaire pour chauffer l'eau chaude sanitaire et le reste du chauffage quand il y a besoin.
Voilà, on avait évoqué justement la filière bois et puis les chaudières à granulats de bois, etc. Justement, avec la LE, l'année dernière, c'était l'objet d'un café climat. Comment on arrive... parce que l'architecture, c'est aussi, on va dire, c'est la solidité du bâtiment, c'est aussi son esthétique, son aspect. Est-ce que les contraintes, là, pour ce bâtiment qui est pourvu d'une isolation thermique extérieure, par exemple, est-ce que les contraintes d'isolation, les contraintes environnementales sont faciles à marier avec les impératifs de l'architecte, qui est de faire un bâtiment fonctionnel, solide, mais aussi esthétique.
Alors je vais vous répondre peut-être de façon un petit peu globale. Moi je pense que la vraie révolution de l'architecture en ce moment, c'est que pour l'architecture occidentale, jusqu'à maintenant, l'architecture est un défi à la nature. C'est-à-dire que les œuvres humaines, les pyramides d'Égypte, les châteaux forts, sont une opposition, un défi par rapport aux éléments naturels. Et là, les problèmes de pollution, les problèmes de surconsommation nous imposent de faire avec. C'est comme si on passait en quelque sorte du bateau à moteur à la navigation à voile. C'est assez extraordinaire. Donc on fait avec les éléments. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut encore une fois dépasser le simple aspect thermique pour dire on offre un confort global, quelque chose d'agréable. Comme je vous ai dit, tous ces logements se prolongent par une terrasse, mais ces logements, s'ils sont économes l'hiver, sont frais l'été. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, je constate malheureusement que les bâtiments qui sont exemplaires du point de vue énergétique ressemblent à des prototypes, vous savez, comme des voitures tunées dans lesquelles on met des élargisseurs d'ailes, des anti-brouillards, et puis c'est un truc mochasse comme ça bricolé. Donc là, sur ce bâtiment, on essaye d'intégrer tous ces paramètres, toutes ces techniques de construction pour faire une réponse architecturale très simple, sobre, élégante, qui puisse, dans le temps, ne pas dire son âge. C'est ça qui est important. C'est qu'on ne va pas faire des trucs olé-olé, des petits bidouillages. On va faire en sorte que toutes les dispositions énergétiques soient intégrées dans le bâtiment.
Avec, j'imagine, toute une bonne part faite à des matériaux soit pas nécessairement nouveaux en tant que tels, puisqu'on a vu le retour de divers matériaux naturels comme la paille pour faire des murs de maison ou le chanvre textile qui revient aussi pour des matériaux. J'imagine qu'il y a aussi toute une panoplie de nouveaux matériaux ou d'anciens matériaux reconditionnés à la sauce moderne que vous êtes amené à utiliser.
Alors dans ce cas précis, et malheureusement je vais vous décevoir, non. C'est-à-dire que dans le marché très, très difficile de la promotion immobilière, mon promoteur a pris avec nous des risques déjà assez énormes d'un bâtiment qui coûte plus cher parce qu'il est plus performant. Mmh. Là aussi il ne faut pas raconter n'importe quoi, si on veut avoir quelque chose de qualité c'est normal qu'on le paye plus cher. Mmh. Et donc pour pouvoir le construire ne pas dépenser déjà ces contraintes, on s'est adressé à des techniques de construction assez traditionnelles. Du béton, du polystyrène, je suis désolé de le dire, du bois aussi bien sûr. Mais notre agence Blue Tango Architecture travaille dans le domaine de l'environnement durable depuis longtemps et en particulier nous avons édifié un certain nombre de bâtiments publics en bois. C'est-à-dire que je crois dans la région, on est assez peu à le faire. On a fait par exemple des bureaux comme ça et des laboratoires pour le CIRAD. On a fait des halles des sports qui sont toutes en bois. Et là, c'est un matériau qui est plus naturel, effectivement, qui est par essence renouvelable et qui, par ailleurs, est toujours sympathique. Donc, même si nous ne sommes pas des ayatollahs du bois, c'est une technique de construction qu'on apprécie bien. Ailleurs, pour d'autres raisons, on a fait des bâtiments qui sont, du point de vue énergétique, parfaitement d'exemplaires et dont leurs parois sont en ferraille. Mmh. On est en train de terminer un insectarium qui est une boîte de fer. Voilà.
D'accord. Cette visite aura lieu donc ce vendredi 29 mars à 14h. Où est-ce que se trouve ce bâtiment ?
Alors en fait, vous le saurez
en vous inscrivant.
En vous inscrivant, exactement. Donc c'est sur inscription. Vous pouvez téléphoner à la LE au 04 67 91 96 96 du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h pour vous inscrire.
Voilà, donc est-ce qu'il y a une capacité maximale pour que les gens s'inscrivent ?
Oui, mais pour l'instant il reste encore des places, donc profitez-en parce que c'est vraiment un beau bâtiment qui nous donne plein d'exemples et vendredi on aura une très belle visite.
Est-ce que, oui ?
Moi j'avais une petite demande, si on conclut là ou ?
On va pas tarder.
J'ai une petite demande, vous savez, mon agence s'appelle Blue Tango Architecture. Hein, c'est en référence à un crooner italien qui s'appelle Paolo Conte, que je trouve remarquable. Oui. Donc j'espère qu'à la fin de cet entretien, vous pourrez nous passer un petit morceau de Paolo Conte.
Eh bien, nous essaierons de fouiller dans notre mémoire radiophonique pour trouver effectivement un titre de cet excellent compositeur italien qu'on ne voit pas beaucoup d'ailleurs par ici. Il doit avoir un âge canonique maintenant. S'il est presque...
Plus que mon agence.
Très bien, alors on rappelle que pour s'inscrire à cette visite de site exemplaire qui aura lieu ce vendredi 29 mars à 14h, c'est au 04 67 91 96 deux fois, 04 67 91 96 deux fois qu'il faut téléphoner. Est-ce que la prochaine visite de site exemplaire est déjà programmée ?
Alors oui, il y en aura une qui va se faire en partenariat avec la ville de Clapiers pour montrer l'école de Clapiers qui aura elle aussi une chaufferie bois. Mmh. Donc voilà, il faudra s'inscrire auprès de la mairie de Clapiers et c'est réservé en priorité aux habitants de Clapiers. Mmh. Et il y en aura une aussi le 1er juin sur une maison individuelle rénovée cette fois-ci. Donc il y a eu une isolation thermique par l'extérieur qui a un chauffe-eau solaire et un poêle à bois.
Peut-être pour terminer, vous disiez justement, quand on veut un bâtiment de qualité, il faut forcément mettre un petit peu plus de sous dans le budget. Mais finalement, si on a un bâtiment qui vieillit bien, qui a une bonne stabilité dans le temps, on va sans doute éviter d'avoir à revenir dessus. On va sans doute éviter voire même des procédures judiciaires entre les locataires mécontents, le propriétaire récalcitrant, etc., etc. Et donc, puis on voit bien certains immeubles construits il y a une vingtaine d'années ou etc. qui ressemblent déjà plus à rien. Il y a eu effectivement une grande époque où on construisait des trucs qui se fissuraient au bout de 2 ans, etc. Donc finalement, est-ce que ça coûte réellement plus cher de payer plus cher au début, ou est-ce que l'adage pas cher coûte cher s'applique aussi dans le bâtiment?
Il est évident que l'amortissement intervient très rapidement, d'autant que tout laisse à penser que le prix de l'énergie va de toute façon augmenter, de façon accélérée même. Donc il y a un gain évident de réaliser des bâtiments de cette qualité-là. Là où c'est sûr que là où le promoteur est exemplaire, c'est qu'il a diminué sa moins-value par rapport à une construction plus simple. Mais pour les acquéreurs, c'est extrêmement avantageux.
Merci beaucoup. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes ces informations, bien évidemment, sur www.ale-montpellier.org. On va vous souhaiter une très bonne visite. Philippe Capellier, merci. Adeline Gimenez, merci. À très bientôt sur les ondes de Divergence. Au revoir.
Avvenne per caso in una stradina moderna sotto la pioggia. Gli ombrelli che fanno zoom, zoom, zoom. L'universo fa boom, boom, boom. Lui una canzone francese, lei una rossa risata irlandese. Vi offro languidi giorni. Io ero languidi giorni, sì, ma io dove ero andato, tutto mi sarei guardato, ne avrei scritto anche meglio di così. Lui era un loden portato da una dolcezza senza rimpianti. Da studi classici ardenti, la pipa morsa tra i denti. Lei era un cavallo, un gatto, un'ondata di mare nordico al sole, vestita come uno vuole, vestita come uno vuole. Due belle gambe lei e un po' di fumo azzurro lui, col permesso degli dèi. Gli dèi dei belli sogni, gli dèi dei belli anni, gli dèi dell'amore rosso, del fuoco nelle sottane, architetture lontane. La vecchia canzone francese contro una rossa risata irlandese. Gli ombrelli che fanno zoom, zoom, zoom. E l'universo fa boom, boom, boom.
Architetture lontane, c'est une architecture lointaine, si je ne me trompe pas. Le grand Paolo Conte, pour faire plaisir à notre architecte qu'on invitait juste avant. Et à présent, on parle de la semaine du don en nature. Nous sommes en ligne avec Stéphanie Goujon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes la déléguée générale de l'Agence du don en nature. On vous avait reçu le 18 décembre dernier pour parler de votre action aux alentours des fêtes de Noël. Pour ceux qui avaient raté ce rendez-vous et qui n'écoutent pas assez assidûment Divergence FM, peut-être rappeler un petit peu la mission de l'Agence du don en nature, dont la spécialité, pour faire simple, vous me corrigerez, est d'aller récolter tout ce qui d'habitude part au pilon ou je ne sais où, auprès des entreprises et plutôt des très grandes entreprises.
Alors, c'est tout à fait ça, Gilles. En fait, nous, pour prendre une métaphore simple, on fait la même chose que la banque alimentaire, mais dans le non-alimentaire. Donc, on a créé une passerelle entre les entreprises, d'une part, et les associations qui luttent contre l'exclusion, d'autre part. Et dans ce cadre, on fait trois choses. Un, comme vous l'avez dit, on va démarcher les industriels pour récupérer leur stock résiduel, leur code promotion, leur fin de série, des choses qui effectivement étaient souvent vouées à la destruction. Deux, on les stocke et on les met sur un site de commande en ligne. Ce n'est pas un site de e-commerce, c'est un site de e-don. Et trois, on les redonne à des associations caritatives sur toute la France. Et donc dans ce cadre, on a pu déjà redonner 22 millions d'euros de produits en équivalent valeur marchande. Et on a un grand projet ADN 2015, Agence du don en nature 2015, c'est de redonner 100 millions d'euros de produits à fin 2015. Vous voyez, il y a du pain sur la planche.
En ce moment, on parle souvent quand des grandes entreprises par exemple des pétroliers se mettent à faire du solaire, on parle de greenwashing. On avait un petit peu abordé ça l'autre fois. Alors d'une part, il ne faut pas s'offusquer du fait que les entreprises aussi se donnent bonne conscience en participant à cette générosité. Mais d'autre part, il y a aussi de la sincérité chez eux.
Oui, tout à fait. Moi, je vois monter en puissance une conscience des dirigeants d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, aucune société n'a envie et ne peut faire abstraction d'une précarité qui est malheureusement croissante en France et qui touche des catégories qui étaient jusque-là épargnées. Qu'on pense aux étudiants, aux jeunes diplômés, qu'on pense aux mamans solo avec leurs enfants, aux travailleurs précaires, aux petites retraites. Donc, aucune entreprise peut faire abstraction de ça par rapport à son bassin d'emploi. À un moment donné, ça devient aussi son problème. Donc, du coup, il y a effectivement des pratiques qui se mettent en place. Et aujourd'hui, nous, on cherche à se faire connaître davantage du tissu industriel, puisque les grosses entreprises, c'est les premières qu'on a été voir, bien sûr, mais on est convaincu qu'il y a plein de PME en France qui ont envie de donner, mais qui ne savent pas forcément comment faire.
Parmi les actions que vous menez pour mener cette mission à bien, il y a la semaine du don en nature qui se déroule à l'échelle nationale du 25 au 29 mars 2013, donc ces jours-ci. Une semaine avec des spots géographiques définis qui sont appelés, j'imagine, à se multiplier.
Oui, exactement. En fait, il va se passer quatre choses dans la semaine du don en nature, qui est une semaine destinée à mobiliser davantage d'entreprises. La première chose, c'est qu'on va publier les résultats d'une étude, d'un sondage qui a été fait par OpinionWay auprès d'une centaine de PME de biens de consommation durable pour dire, il y a un faible pourcentage d'entreprises aujourd'hui qui donnent parce qu'elles ne savent pas qu'il y a des filières sécurisées comme l'Agence du don en nature pour écouler leurs invendus. Donc ça va être une première chose qu'on va faire. Deuxième chose, comme vous l'avez dit, Gilles, on va avoir 5 actions dans 5 grandes régions de France, puisque l'idée, c'est de pouvoir constituer des sortes de hubs régionaux avec des correspondants locaux, bénévoles, qui nous aident à coordonner les opérations pour avoir plus d'impact social, pour avoir plus d'associations dans notre réseau et pour aider plus de personnes en difficulté. La troisième chose qu'on fait, c'est qu'on publie un petit livret qui sont des témoignages d'entreprises engagées à nos côtés depuis le début pour montrer la palette de motivation qu'il peut y avoir et bien sûr faire des émules auprès des PME pour dire il y a plein de bonnes raisons à devenir partenaire de l'Agence du don en nature. Et la dernière chose, ce sera un grand débat mais qui a lieu à Paris le 28 mars au soir sur les enjeux économiques et sociaux de l'aide non alimentaire. Parce qu'on parle beaucoup d'aide alimentaire, mais il ne faut pas oublier que vivre dignement, c'est aussi pouvoir se laver les cheveux, avoir des vêtements propres, avoir des stylos neufs pour aller à l'école, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu notre credo aujourd'hui, c'est de parler, de faire parler de l'aide non alimentaire.
Cette idée de faire une semaine, à l'instar de beaucoup de manifestations qui se focalisent souvent en printemps, là, on est en pleine semaine de l'environnement à Montpellier. Comment l'idée d'occuper cette période au mois de mars pendant une semaine a germé puis mûri?
Alors, il y a quelque chose de très factuel, c'est qu'en fait, c'est nos 4 ans déjà. C'est les 4 ans, on s'est lancé en mars 2009 au niveau opérationnel. Donc, chaque année, on fait quelque chose pour témoigner auprès de tous nos partenaires de où on en est, de nos enjeux, comment il faut qu'on continue à se retrousser les manches. Et puis, je vais être très honnête avec vous, j'avais pas une grande fenêtre de tir parce qu'il y a les vacances de Pâques d'un côté, il y a les vacances d'hiver de l'autre, il y a la semaine du développement durable qui effectivement est là, donc je voulais pas que ce soit noyé un peu dans tous ces événements-là qui sont importants, hein, mais du coup, je voulais qu'on ait un petit peu plus de fenêtres d'espace, de surface d'expression, donc c'est comme ça qu'on a choisi cette semaine du 25 au 29 mars, et parce que donc c'est un peu nos 4 ans aussi, quoi.
Pour cette semaine du don en nature, sur le site, on peut accéder très rapidement à comment faire, qu'on soit une entreprise ou une association. En parlant de ces associations, parce que l'objectif, on l'avait évoqué la dernière fois, c'est de faire évoluer le maillage sur le territoire et puis finalement de travailler en synergie avec les associations qui existent localement, ce qui n'est pas nécessairement encore le cas dans tous les départements, ou je me trompe?
Alors c'est pas le cas. Aujourd'hui on touche toute la France, mais on essaie de consolider, si vous voulez, de massifier les flux dans des zones clés et dans des zones aussi où on a des relais. Et d'ailleurs je sais qu'il y a quelqu'un de Montpellier qui est un candidat bénévole qui nous avait contacté suite à l'entretien qu'on avait eu en décembre dernier, et donc je suis très contente parce qu'on va pouvoir comme ça construire. Nous on a besoin d'avoir des relais locaux parce qu'on ne peut pas tout gérer de Paris, donc on fait beaucoup de visites terrain, et à un moment donné il faut aussi qu'on ait des gens sur place, parce que le grand engagement qu'on prend aussi vis-à-vis des industriels, des entreprises, c'est que les associations qui bénéficient des produits sont des structures sérieuses et que les produits ne vont pas se retrouver sur les marchés parallèles. Et que vraiment, ça va aux personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté en France. Je rappelle qu'on a 8,6 millions. Donc du coup, ça c'est important pour nous d'avoir des gens sur place qui peuvent nous recommander des associations, qui peuvent identifier les besoins aussi, savoir de quels produits vraiment on parle, et puis qui peuvent aussi faire un suivi et vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de dérive, si vous voulez. Donc ça, c'est très important dans notre modèle qu'on puisse avoir ces relais, ces correspondants locaux.
J'imagine bien que vous êtes en contact dès qu'il y a des entreprises qui produisent des biens de consommation non alimentaires. Par contre, il y a des zones en France, notamment à Montpellier, où il y a pas d'entreprises. Est-ce que aussi les biens de consommation entre guillemets immatériels, comme je sais pas moi des jours en vacances, des voyages, etc., sont aussi sollicités?
C'est une bonne question, mais c'est vrai que pour l'instant, nous, on n'a pas souhaité se diversifier à ce niveau-là, parce que on a déjà tellement de besoins sur des produits de nécessité courante, comme les lessives, comme le linge de maison, comme la vaisselle, comme les gels douches, que voilà, on est vraiment plus sur le bien manufacturé, si vous voulez. Alors, on peut, un jour, je pense qu'on pourra venir à d'autres types de produits immatériels. Mais à ce stade, on reste focalisé sur cette mission de base, parce que déjà, on n'a pas assez de produits par rapport à la demande. Donc, on veut vraiment chercher à convaincre de nouveaux donateurs sur ces aspects, sur ces produits-là. Et ce qu'on va essayer, j'espère aussi cette année, de mettre en place, c'est de voir comment on peut travailler avec certains distributeurs. Parce que jusqu'à présent, on est uniquement avec les industriels, les entreprises, mais ça peut être intéressant de travailler aussi avec les magasins. Et là, il y a un vrai enjeu de territorialisation et de voir comment on peut massifier les flux à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que nous, notre entrepôt, il est dans le centre. Et donc, il faut remonter les produits jusque là-bas. Donc, il faut qu'on ait une organisation logistique pertinente. Voilà, donc déjà des gros enjeux sur les produits manufacturés, les biens immatériels, je pense que ce sera pour un peu plus tard.
Voilà, on retrouve évidemment tous les renseignements sur adnfrance.org. Pour les entreprises, elles peuvent composer le 01 76 21 10 51.
Non, ça c'était l'ancien numéro de téléphone. Ah. On a bougé, pardon. 01 80 48 90 50, le nouveau. 01 80 48 90 50.
Parfait, c'est le numéro de téléphone que peuvent composer les entreprises pour cette semaine du don en nature qui se déroule du 25 au 29 mars 2013. Stéphanie Goujon, on vous remercie et puis on vous souhaite une bonne campagne. Moins de gaspillage, plus de partage, c'est le slogan de l'agence du don en nature.
Merci beaucoup Gilles.
Au revoir.
Au revoir.
Et pour illustrer bien le fait de ne rien gaspiller, c'est AIM qui nous dit « Ain't got time to waste », même le temps ne se gaspille pas.
Getting hot, thinking when they pop, my name drop. Ain't gonna rock the spot, but they got. See you with my team top, rap charts to pop. What you saying ain't mine, so it doesn't mean a lot bigger. When they go by this, my pockets get bigger. Money legal, but keep my hand off a gun trigger. Stick up your eardrum, not your purse for my bank account. Funds need lots of ones, about a million of them. Retired when about 30, now the only time I guard up my yard is when my hand's dirty. Pardon the French, but cold metallic. Rhymes vary from here to Napa Valley. Squash grapes, make tapes, make no mistakes. I hate fakes, who think I got time to waste. Check it, if you're wasting my time, don't be surprised if I rob you. If you drop dime, I'm a mom. Time waits for no one, and everybody got the goal. You think you got forever, but walk around real slow. Hesitate if you want, get caught out late. It's moving too quick, I ain't got time to waste. Time waits for no one, and everybody got the goal. Think you got forever, but walk around real slow. Hesitate if you want, get caught out late. It's moving too quick, I ain't got time to waste.
My man locked up, steady, got 70,000 hours. He got knocked, Christian cracked through the bill powers. I hate to say it, was the streets, got the shits buried. I left a yard in your commissary. It's the only thing you got now. I wish I told you something before you got locked down. Now I miss you, you and I used to cock missiles. Lock issues, treat flesh, it's got tissue. Rip through it, if it's beef, we would get to it. Toss heat to it, watch it cook. It didn't care if you look. Ski mask had the face covered. Keep your eye on your girl, cause I like to cover. Sneak on her, make her mind, make your beat on her. You like the G on her, now she at the crib, I like the freak on her. You in my face, we can speak on it. You wanna talk or do you wanna put the heat on it?
Time waits for no one, and everybody got the goal. You think you got forever, then walk around real slow. Hesitate if you want, get caught out late. It's moving too quick, I ain't got time to waste. Time waits for no one, and everybody got the goal. Think you got forever, then walk around real slow. Hesitate if you want, get caught out late. It's moving too quick, I ain't got time to waste. Tough time make for tough rhymes. Things changing, we a long way from white lines. Back in the days seem strange, but they over now. People try to bring it back, but they don't know you now. What you think that they owe you now? It might be true, but they forgot about it. Now what you gonna do? Sit back or go and get that. If you wish I'm getting cream, then I'm with that. If your girl is in the teens, we can split that. And if she likes Cristal, we can sip that. I'm with the kickback, we can lay back about the weekend. Let the phone ring, cause I ain't got time for speaking. Nowadays, you know I only got time for freaking. And if I go left, Viagra, I'm seeking. I work for this, got money by the fist. I remember when I could only lay back and wish. Time waits for no one, and everybody got the goal. You think you got forever, then walk around real slow. Hesitate if you want, get caught out late. It's moving too quick, I ain't got time to waste. Time waits for no one, and everybody got the goal. Think you got forever, then walk around real slow. Hesitate if you want, get caught out late. It's moving too quick, I ain't got time to waste. Time waits for no one, and everybody got the goal. You think you got forever, then walk around real slow. Hesitate if you want, get caught out late. It's moving too quick, I ain't got time to waste. Time waits for no one, and everybody got the goal. Think you got forever, then walk around real slow. Hesitate if you want, get caught out late. It's moving too quick, I ain't got time to waste. Yeah.
Un morceau qui se termine très progressivement, comme l'a souligné fort pertinemment mon ami Bruno. C'était Ain't Got Time to Waste par AIM pour bien refermer cette partie société de l'Auberge Espagnole, car à présent on va retourner côté culture et avec nous dans le studio pour évoquer les mercredis en musique de la marmite. C'est demain sur la scène de l'Antirouille. Pascal Portugais et Evan qui sont avec nous, respectivement leader de deux styles et d'une touche d'optimisme. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors voilà, les mercredis de la marmite, après les jeudis de la marmite, les mercredis de la marmite, bientôt il y aura les lundis, les mardis, les vendredis, les samedis, les dimanches. Donc il y aura des concerts marmite tous les soirs et l'Antirouille, bah, il faudra trouver une autre salle parce qu'ils ne vont pas non plus, à moins qu'ils prennent des parts, qu'ils fassent une OPA sur la marmite.
Donc non, c'est la marmite qui va racheter l'Antirouille.
Ah tiens, ouais. Non mais c'est vrai que ça a l'air de bien marcher pour ce collectif. On va dire la mayonnaise prend bien. Peut-être un commentaire là-dessus, justement, sur ce collectif qui réunit de plus en plus de groupes, finalement.
On est les petits nouveaux de la bande, donc... Ouais. Donc bon, ils sont venus chercher des artistes de qualité, donc déjà, c'est preuve que ça...
C'est preuve qu'ils ont du goût, déjà.
Déjà qu'ils ont du goût. Et mais oui, ça commence à bien marcher, c'est la deuxième année, donc nous, c'est la première année où on s'engage, mais c'est la deuxième année, et je pense que ça va... On a pour envie, à la marmite, de créer un événement vraiment sur la durée. Donc oui, je pense que ça... Et c'est bien parti. Mmh, mmh.
Toi, Pascal, qui es un acteur de la scène musicale locale depuis...
Joué dans des films aussi.
J'étais même pas né. T'as joué dans des films aussi? Ah oui, je me souviens dans un western de Sergio Leone en 1947.
Doublure de Marlon Brando.
Mais c'est vrai que toi, en tant que 280 com, la production discographique, musicien dans Dutch Tilge depuis belle lurette, ça fait plus de 10 ans maintenant que le groupe existe, même 15 ans.
Il y a eu 10 ans de silence où j'ai rien fait.
Oui.
Donc ça fait beaucoup.
Enfin, t'as pas rien fait, mais on va dire t'as...
Enfin, musicalement. Ouais.
Voilà.
Et donc ça a été actif de 96 à 99 de style, puis ça a repris en 2010.
Voilà. Et repris plutôt avec fracas
en fanfare, voilà. Même si ça n'a rien à voir musicalement.
Avec la fanfare. Justement, un mot justement sur cette initiative du collectif La Marmite de se dire, bon, ben, plutôt que de créer une structure qui serait comme un syndicat ou je ne sais pas quoi, créons plutôt un collectif de groupe, essayons de faire des choses ensemble. C'est plutôt bienvenu parmi d'autres initiatives, en tout cas sur la scène montpelliéraine.
Oui, c'est très bienvenu, d'autant plus que ça reste quand même des horizons artistiques différents, il y a un peu de tout. Donc à la base, bon, c'est pas gagné non plus, on connaît les musiciens, on connaît, voilà. Donc c'est pas gagné de réunir tout le monde dans un collectif, d'avoir des objectifs communs, des objectifs à long terme. Parce que bon, les mercredis de la marmite, qui étaient les jeudis avant, c'est une première étape d'une action collective sur l'année, qui va s'amplifier dans le temps et qui est appelée à se développer dans l'intérêt du collectif.
Mmh. Et des groupes qui le composent sous la forme peut-être d'un festival ou d'un rendez-vous plus important qui permettrait à tous les groupes d'être représentés, faut voir. En tout cas, plus on est nombreux, plus on pèse face aux éventuels partenaires institutionnels ou quoi qui peuvent mettre la main au porte-monnaie et à l'infrastructure pour permettre de réaliser certains événements.
Pour l'instant, la poche est cousue, donc ils ont du mal à rentrer dans la poche qui tient le porte-monnaie. Mais bon, peut-être que ça va se débloquer plus tard.
Eh bien voilà, nous allons lancer un appel si vous avez des
Monsieur
ciseaux.
Monsieur Rigaudin. Si vous nous entendez.
S'il nous entend, eh bien qu'il prenne un ciseau et qu'il découse les poches qu'ils ont cousues. Mais je ne pense pas qu'il ait le dernier mot en matière de budget, puisque c'est les élus en général qui s'occupent de ça. Et ce n'est pas son cas. Pour revenir à ce qui intéresse ceux qui nous écoutent et qui, bon, ben voilà, la politique culturelle, machin, les initiatives, ils trouvent ça sympa, mais ce n'est pas ça qu'ils vont venir voir demain soir sur la scène de l'Antirouille. Une touche d'optimisme aussi, vous taillez la route depuis déjà un certain temps.
Ça va faire...
voire même un temps certain.
Ça va faire 8 ans, même si on a démarré vraiment dans l'optique loisir, juste avec mon ami pianiste Guitou, où c'était vraiment entre nos heures de cours à la fac. Et ça fait 6 ans maintenant, et donc le troisième album qui sort bientôt, que vraiment c'est devenu un projet vraiment sérieux avec l'envie d'en vivre.
L'envie d'en vivre, et puis un line-up aussi qui s'est étoffé avec le temps. Vous êtes combien là aujourd'hui?
On est 6.
6.
On a été plus nombreux, mais là on est 6 actuellement.
Vous êtes 6, et vous êtes 6 sur la photo, effectivement, qui illustre unetouchedoptimisme.com, site sur lequel on peut retrouver tous vos rendez-vous. Avec donc cet album, qui, le dernier des grands rois, qui est sorti, qui sort bientôt.
Bientôt, voilà.
Bientôt, c'est-à-dire
En 2013.
Je l'ai sous les yeux, effectivement, il y a marqué 2013, mais je crois qu'après, au niveau de la distribution, ça va se passer comment
Alors là, mais moi je me trouve un petit peu en porte-à-faux parce que notre ami Pascal a quelques billes dans l'album et c'est lui qui s'en occupe, donc je vais le laisser.
Donc avec une de mes structures, on est coproducteur de l'album avec le groupe et y a des discussions en cours avec plusieurs professionnels de la distribution, de l'édition. Pour essayer d'avoir le meilleur deal possible pour ce disque. Quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est la distribution, c'est toujours un vrai casse-tête chinois. Comment faire pour que mon CD ne parte pas à 30 centimes bradé dans les je sais pas où ?
Non, mais c'est exactement ça. Mais là, ça va se finaliser bientôt. Donc, pas d'inquiétude, il sera disponible très rapidement.
Un album que vous avez enregistré ici à Montpellier ?
Non, on était dans l'Aude, chez notre ami David Briol, qui a un studio indépendant et...
Et à la campagne.
Et à la campagne, qu'on salue et qu'on remercie parce qu'on est plutôt contents.
Mmh. Un travail qui a commencé quand et qui s'est terminé, j'imagine, assez récemment.
En fait, les compositions s'étendent à longueur de temps. Donc, il y a certains morceaux qui ont certains morceaux qui ont 7-8 ans, parce que c'est des morceaux qui étaient à l'origine du groupe et qu'on n'avait jamais sortis. Et il y a des morceaux qu'on a finalisés il y a 3 mois, enfin, un peu plus, 4 mois. Et en fait, on a fini le mastering, ça devait être en décembre.
Mmh. Donc un travail on va dire de longue haleine parce qu'il y avait 2007 quelques grammes de bonheur, 2009 deux titres, 2010 En avant pour demain, 2013 ça fait un rythme assez, c'est pas du staccanovisme mais il y a quand même du boulot.
Ah mais ça me fait plaisir que vous me dites ça parce que notre ami Manu le bassiste trouve qu'on... En fait j'écris les textes et mon ami le Guitou le pianiste le compose. Il trouve qu'on justement on fait pas assez de morceaux. Lui il voudrait 17 morceaux par album et un album tous les deux ans. Voilà, ça serait son rythme de croisière, ça serait ça. Donc je suis content de voir que non, un album tous les trois ans ça me paraît correct pour pouvoir avoir le temps d'avoir des chansons vraiment nous en tout cas. Qui à nous nous plaisent. Parce que sortir des chansons où on est mitigé sur nous-mêmes sur la qualité, ça ne nous intéresse pas. Après, évidemment, au niveau du public, ça varie. Il y a des gens qui vont aimer telle chanson. Mais nous, voilà, on est vraiment contents à chaque fois des chansons qu'on sort sur les albums. Donc c'est le plus important.
Et on va de rechef en écouter un extrait qu'on commentera juste après.
En Espagne que les guitares s'affranchissent de la dictature. La movida comme art de vivre, la musique comme un étendard. De flamenco chante la peine, des pauvres chants à la vie dure. Mais c'est aussi l'envie de croire en une vie un peu moins noire. C'est au Portugal que les femmes chantent le fado, le cœur serré. Des histoires de marins noyés par le chagrin d'amour foutu. Toute une vie en chanson pour donner le courage d'avancer. Malgré la tristesse de la mort, malgré tous les maris perdus. Et j'entends le bout de mon père, lire de ses collines berbères. La musique n'a pas de frontières, tant qu'elle se joue avec le cœur. Et j'entends le bout de mon père, tisir le zou et tout s'éclaire. La musique n'a pas de frontières, c'est un passeport vers le bonheur. Aux États-Unis, que les esclaves chantent malgré leur sort. La ségrégation et les viols, le lynchage de pauvres innocents. Le blues nous raconte cette histoire pour ne pas oublier les morts. Les affranchis le chantent encore, le peuple noir est bien vivant. Et c'est en Irlande du Nord qu'on entend si fort les violons. Et qu'on les entend de si loin, ils vont taire les canons. Que les protestes ont fleuri sa belle face comme à Lublin. Et catholiques et protestants feront la paix, j'en suis certain. Et j'entends le bout de mon père, lire de ses collines berbères. La musique n'a pas de frontières, tant qu'elle se joue avec le cœur. Et j'entends le bout de mon père, Tizi Ouzou et tout s'éclaire.
La musique n'a pas de frontières, c'est un passeport vers le bonheur. En Kabylie, depuis toujours, les hommes sont des insoumis. Et au son des chansons lydires, c'est l'exil qui nous est compté. Partir pour un ailleurs meilleur, beaucoup d'entre nous l'ont fait. Une valise dans une main, et sur les lèvres un chant joli. Et j'entends le bout de mon père, du haut de ses collines berbères. La musique n'a pas de frontières, tant qu'elle se joue avec le cœur. Et j'entends le bout de mon père, Tizi Ouzou, et tout s'éclaire. La musique n'a pas de frontières, c'est un passeport vers le bonheur.
Une touche d'optimisme, c'est demain soir sur la scène de l'Antirouille avec deux Stilge pour ces mercredis de la marmite. Si jamais vous les ratez, eh bien une touche d'optimisme seront en concert aussi au mois de mai à Montagnac, le 18 au Festicolor à Meung-sur-Loire dans le centre le 31 mai, ou encore au mois de juin à Dijon ou à Montarnau, respectivement les 1er et 22, et puis aussi sur la petite guinguette au bord de l'eau à Cancon. À Cancon, dans le 47, au restaurant du lac. Je ne sais pas du tout où ça se trouve.
Mais c'est vachement bien en tout cas. On y est allé l'an dernier. Je ne sais pas du tout où ça se trouve non plus parce que je ne me souviens pas. Mais c'est super sympa. Si vous avez l'occasion d'y passer, allez-y.
Donc voilà, l'ambition, comme tu le disais, de professionnaliser le groupe, c'est une idée qui est venue depuis combien de temps ? Entre le passage estudiantin où on fait ça un petit
c'est
peu pour le fun.
On s'est rendu compte qu'on était inadapté au travail normal en fait.
D'accord.
On s'est rendu compte que de toute façon on pourrait pas faire autre chose. On s'est dit bon ben là faut y aller à fond, faut réussir à en vivre.
Et sur les conseils de votre psychothérapeute, vous avez décidé d'embrasser la carrière de musicien.
Là on a fait le constat qu'on n'était pas capable de faire autre chose, voilà, et qu'on n'avait pas envie de toute façon de faire autre chose. Donc à partir de là on se donne les moyens. Après tout le monde le sait, c'est compliqué donc. Mais faut juste avoir l'énergie pour se battre et puis ça se met en place petit à petit.
Absolument, absolument, de l'énergie, il en faut. Justement, on va aussi, on aura un deuxième extrait d'une touche d'optimisme à passer. Peut-être parler tu disais, 10 ans de pause pour The Style, Pascal, entre 97 donc, et 2010, à peu près.
99.
99 et 2010.
Enfin, 2000 en fait, début 2000.
Ouais, ah d'accord. Et en fait, c'est aussi parce que tes différents projets professionnels te prenaient aussi trop de temps ou ça correspondait à une espèce de panne du stylo ?
Ah non, c'est pas du tout panne, c'est juste. Bon, déjà, les deux premiers albums de deux styles, deux formations différentes.
Oui, il y a eu beaucoup de changements de line-up.
Voilà. Donc quand la chanteuse est repartie en Norvège, parce qu'elle était norvégienne, qui était sur le deuxième album, s'est posé la question de qu'est-ce que je fais pour la suite. Donc sachant que je ne savais pas trop si elle reviendrait en France ou pas. Bon.
Donc, c'est petit... l'avantage d'avoir des musiciens qui viennent de partout en Europe. Voilà.
Petite période de flottement. Sur ce, constatant mon inaptitude aussi à
la remplacer,
exécuter des ordres dans un contrat salarié.
Ah oui.
J'ai décidé que j'allais monter ma propre boîte et que du coup j'aurais pas d'ordre à recevoir. Donc du coup j'ai monté ma boîte et puis
280 com.
280 com. Après une deuxième, une troisième. Puis bon, ça c'est.
Et tu t'es transformé en homme d'affaires et t'avais plus de temps.
Voilà, ça a pris pas mal de temps. Et puis l'idée aussi, au bout d'un moment, c'était de dire. Refaire de la musique, il y a deux options. La première, c'est on fait ça pour s'amuser. Voilà. Et la deuxième option, c'est on fait ça
sérieusement.
Plus sérieusement, mais il faut des moyens parce que sinon, on ne peut pas arriver à faire quelque chose sans moyens. C'est
Cette réflexion, elle t'a aussi peut-être été inspirée justement par le fait de monter
par l'expérience de ne pas prendre de label, d'avoir sorti une centaine d'albums d'autres artistes. Quoi. Et après, bon, moi je connaissais Fred, le nouveau chanteur de Style depuis 20 ans, puisqu'il jouait dans l'Effet Papillon à l'époque. Puis j'ai proposé de venir, de dire, ça te branche pas qu'on fasse un truc, voilà. Donc que tu viennes chanter, et puis on fait un album pour se régaler, sans autre ambition que celle-là. Patrice, qui avait déjà joué sur le deuxième album, guitariste de Effet Papillon aussi, a dit, moi je suis partant. Puis on a pris Laurent, donc qui joue avec The Chase maintenant, à la batterie, et un copain qui a fait les basses. Et puis on a fait cet album, The White Stripes, qui est sorti donc en 2010, avec, comme on le trouvait très bon, on a dit, on va essayer de le sortir dans les circuits commerciaux, voir ce que ça donne. Et puis il s'est avéré que ça a super bien marché. Tout est relatif.
Par rapport à ce que vous
attendiez, 100 000. Hein, ouais. Mais,
par rapport à ce que vous attendiez, c'était super positif.
Voilà, très beau résultat critique de partout. On en a vendu avec le numérique. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a un champ d'action mondial. Donc on a vendu
un certain nombre.
Un bon paquet, et surtout aux États-Unis, ce qui était surprenant. En Allemagne aussi. Et on a signé d'ailleurs avec un label allemand qui l'a sorti en physique. Donc en Allemagne, en Autriche, Pologne.
Là aussi, ça a bien fonctionné.
Etc. Toute proportion gardée, sachant qu'il n'y a pas eu de promo, pas eu de concert, etc. On en a vendu, il n'y en a quasiment plus, quoi. Et donc du coup, on a dit, le prochain, donc celui qu'on vient d'enregistrer, on va mettre un peu plus de moyens, parce que avec un peu plus de moyens, on fera mieux, voilà, a priori.
Un peu plus de moyens, c'est enregistré à Manchester avec Yves Altana, avec des invités assez prestigieux comme Peter Hook ou Julie Gordon. Comment ces contacts se sont faits avec des gens de la scène mondiale, hein, parce que là on parle de gens de Joy Division ou New Order ou de Happy Mondays. Donc c'est des personnages que tu connaissais déjà,
pas du tout. Non, en fait, Yves, donc il y a un Français installé à Manchester depuis 30 ans, qui avait produit l'album d'Otis Wood dans les années 90.
Absolument.
Ouais. Donc, on l'a contacté via une connaissance commune, on ne le connaissait pas, on lui a envoyé des démos, on lui a demandé si ça l'intéressait de produire l'album, de le réaliser. Donc, le sens produire dans le sens réalisation, pas mettre de l'argent, c'est nous qui en avons donné. Donc, et puis il a été super enthousiaste. Peter Hook, on lui a envoyé des mots par la poste, tout simplement. Et puis un jour, on a eu un email. Salut, c'est Peter Hook, j'ai écouté votre album, c'est OK. Voici le contact de mes managers pour arranger le truc.
C'est là que tu as sauté au plafond, que tu t'es cogné la tête.
Ah ouais, on a été... Jusque la veille de l'enregistrement, on se demandait s'il viendrait. Et
c'est
après, Julie, on cherchait une choriste pour faire... Et c'est le studio qui la connaissait... Donc à Manchester, qui lui a proposé, voilà. Et puis nous, il nous en a proposé plusieurs. Et on a dit, Julie, c'est la voix, qu'on a envie d'avoir, c'est sa voix à elle. Et elle a écouté, et puis c'était bon aussi.
Et là, donc l'album, il est disponible.
Non,
il n'est pas encore.
Que pour nous,
l'album. Il est que pour vous pour l'instant. Il y a une date officielle de sortie qui est prévue.
Non plus.
Là, c'est un nouveau genre, en fait.
C'est un nouveau concept.
Donc, on a une négociation avec plusieurs labels pour le sortir à l'international.
Des négociations qui s'annoncent faciles ou pas faciles?
Pour l'instant, assez facile.
Oh, superbe.
Quand on parlera des questions financières, ça sera plus difficile, mais pour l'instant...
Ce sera un petit peu plus
difficile. Donc on vient de prendre un manager belge. Belge en Belgique. Donc, c'est pour l'instant, tout ce qui gravite autour de l'album, c'est le nord de l'Europe, quoi. On verra ce qui se passe plus tard, mais c'est vrai que de toute façon, on fait une musique qui est plutôt... l'électro, le rock indé, c'est plutôt nord de l'Europe que sud, quoi, au point de vue du public et des pros, quoi.
Tout à fait. Alors, nonobstant, si vous allez sur destijl.info, destijl.info, eh bien, vous pourrez, pour 10 euros, avoir l'album complet en téléchargement avant tout le monde, plus 3 inédits hors commerce, ou encore pour 15 euros, vous pourrez avoir l'album complet en téléchargement avant tout le monde, plus le CD, plus 3 inédits, pour 20 euros, etc., selon les modèles classiques de crowdfunding, comme on dit aujourd'hui. Donc là, c'est plutôt bien. Et puis, il y aura aussi un concert le 28 mars à Perpignan, au Mediator.
Ouais.
Hein, donc après-demain. Et puis à Saint-Jean-de-Védas, à Victoire 2, ce sera le 25 avril.
Alors ça, par contre, c'est un concert privé sur invitation.
Ah, ça fera partie du club V2, c'est ça?
Non, pas du tout. On fait une résidence de 4 jours. D'accord. Pour préparer le nouveau spectacle, ouais. La nouvelle tournée. Et en fin de résidence, on va faire un concert à 18h ou 18h30 sur invitation, plutôt axé pro, pour présenter le nouveau spectacle. Et peut-être, si on arrive à boucler les contrats d'ici là, l'avenir de l'album.
Eh bien, souhaitons-le, mes bons amis. On n'aura pas le temps d'écouter un autre extrait d'une touche d'optimisme, car leur tourne, on papote comme des vieilles commères. Mais en tout cas, eh bien, ça sera une raison de plus pour vous rendre demain sur la scène. Non, pas vous sur la scène, vous serez devant la scène. Eux, ils seront sur la scène, vous l'avez bien compris. À l'Antirouille, demain soir, pour ce mercredi de la marmite, avec une touche d'optimisme et deux Stilges. Alors, juste un petit point comme ça. Quand on tape deux Stilges sur un moteur de recherche, on comprend pourquoi vous avez acheté un point info, parce que tous les autres points, ils sont pris, puisque c'est le nom d'un célèbre designer sans doute scandinave ou batave qui a fait des fauteuils et tout qui sont super connus.
C'est un mouvement
etc.
Un mouvement artistique hollandais donc, du XXe siècle.
Voilà, donc du coup c'est pas facile sur la première page de Google de vous retrouver.
Il a fêté ses 100 ans en 2017, donc je pense qu'on fera un truc.
Ah bah oui, absolument. Il faudra faire un truc, un fauteuil par exemple. Voilà, on se quitte donc avec un extrait de cet album que vous pouvez vous procurer sur le site destijl.info. Et puis voilà, le rendez-vous c'est demain à partir de 20h30 en Antirouille. On vous remercie d'être venu au studio de Divergence, on vous souhaite un très bon concert demain. On remercie Bruno Bertrand qui a réalisé cette auberge espagnole. Je vous dis une bonne semaine, à la semaine prochaine. Salut à toutes, salut à tous.
Salut.
Et bande de petits vénards, vous pouvez envoyer un mail à invitation@divergence-fm.org. Il le redit, le garçon, invitation@divergence-fm.org pour gagner des invitations pour aller voir les mercredis de la marmite demain à l'Antirouille.